Technologie, science,
algorithme, simulation,
informatique.
Chers auditeurs, bienvenue dans ce 27e épisode du podcast Interstice. Aujourd'hui, nous allons parler de génomique et plus particulièrement du séquençage de génome. Pour en discuter, nous recevons François Reichenmann, chercheur dans l'équipe IBIS à l'INRIA Grenoble Rhône-Alpes. François Reichenmann, bonjour.
Bonjour.
Alors, que signifie séquencer un génome ?
Stricto sensu, le génome, c'est l'ensemble des gènes d'un organisme. Par ailleurs, le génome, c'est aussi la molécule d'ADN qui porte cette information qui permet à la cellule de produire des protéines. Et une portion d'ADN, c'est un gène qui contient cette information nécessaire pour synthétiser une ou plusieurs protéines. Alors cette molécule, on la connaît, c'est la molécule d'ADN. On connaît par l'imagerie populaire cette double hélice qui est composée donc de deux brins, et sur chacun des brins, il y a une succession de petits motifs chimiques qu'on appelle les nucléotides, et qui sont de quatre types différents, qu'on désigne par leurs initiales A, C, G et T. Dans ce contexte, séquencer un génome, c'est chercher à déterminer quelle est la séquence des nucléotides le long de la molécule d'ADN du génome d'un organisme donné.
Et tous les organismes vivants ont un génome, non ?
Oui, y compris les organismes qui sont à la limite du vivant, qu'on appelle les virus, les bactéries bien entendu, et des organismes qui nous sont plus proches, mammifères et l'homme en particulier.
Et à quoi ça sert de séquencer un génome ?
À partir du moment où on connaît la séquence du génome, c'est-à-dire cette succession de nucléotides le long de la molécule d'ADN, comme à chaque nucléotide, on associe une des quatre lettres A, C, G, T, au bout du compte, connaître la séquence des nucléotides revient à connaître un texte écrit dans cet alphabet de quatre lettres A, C, G et T. Si je connais la séquence complète d'un génome, j'ai potentiellement accès à l'ensemble de ces gènes. Si je connais les gènes, je connais potentiellement les protéines. Et donc, séquencer un génome, c'est avoir accès potentiellement à l'ensemble des protéines synthétisées au sein des cellules de cet organisme.
Une fois qu'on a accès à ces informations, qu'est-ce qu'on en fait ?
Ah, ça c'est une très bonne question, parce qu'en fait c'est là où biologistes et informaticiens commencent à travailler véritablement ensemble. Jusque-là, l'opération de séquençage, c'est une opération qui actuellement est quasi complètement automatisée. Et donc, en entrée de cette opération, pour simplifier, on met des molécules d'ADN. En sortie, c'est plus compliqué que ça évidemment, on retrouve un texte écrit dans ces quatre lettres A, C, G, T. Un texte relativement long.
De quel ordre de grandeur ?
Alors, il y a plusieurs ordres de grandeur des différences entre les organismes les plus simples, quelques milliers de lettres pour un virus, par exemple, quelques millions pour des bactéries, à quelques milliards, par exemple l'homme, 3 milliards et demi, grosso modo, et éventuellement des organismes qui ont des génomes encore plus longs. On peut citer l'amibe, par exemple, qui a un génome qui est 200 fois plus long que celui du génome humain. Donc, c'est des textes de plusieurs milliards de caractères. Et en plus, très répétitif, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de ponctuation, donc il faut les interpréter.
Et c'est donc là que la bioinformatique intervient.
Oui, absolument. Le texte, c'est quelque chose que les informaticiens connaissent bien, c'est les chaînes de caractères. Ils ont développé énormément d'algorithmes pour analyser, traiter des chaînes de caractères. Et donc, ces longues chaînes de caractères peuvent être interprétées à l'aide de programmes, de méthodes spécifiquement développées et qui vont permettre, en particulier, de trouver dans cette séquence-là les passages les plus intéressants, qui sont justement les gènes. Donc, délimiter ces gènes, c'est une des tâches de la bioinformatique qui utilise des algorithmes extrêmement variés et dont le problème n'est encore pas complètement résolu. Actuellement, sur le génome humain, par exemple, la prédiction par des méthodes informatiques des gènes est un problème incomplètement résolu.
Justement, la première séquence complète d'un génome humain a été obtenue en 2004 dans le cadre du projet Génome humain. Cela a nécessité plus d'une dizaine d'années. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à de telles durées ?
À l'époque où le projet Génome humain a été lancé, fin des années 80, début des années 90, plutôt le début des années 90, les techniques de séquençage étaient encore très artisanales. Ça impliquait des manipulations manuelles, et donc ça prenait du temps, et il y avait des risques d'erreurs assez considérables. Comme dans quantité d'autres domaines, la technologie a évolué et des techniques de plus en plus automatisées et donc de plus en plus rapides et de moins en moins chères sont apparues. Pendant toute la période de durée du projet Génome humain, il y a eu des progrès technologiques, mais encore insuffisants, c'est-à-dire qu'il a fallu effectivement plusieurs laboratoires qui ont travaillé conjointement pendant une dizaine d'années pour obtenir cette séquence de 3 milliards et demi de caractères. Et encore, faut-il souligner qu'en 2001, c'est une ébauche de ces génomes humains qui a été publiée, qui a été raffinée et complétée pendant les années qui ont suivi. Donc à cette période-là, les techniques avaient déjà fait des progrès. Le projet génome humain a accéléré en quelque sorte le développement de ces techniques. C'était aussi un des objectifs du projet, qui n'était pas simplement d'obtenir le génome humain, mais aussi de faire progresser les techniques de séquençage. Et depuis, les techniques de séquençage ont énormément progressé ces 20 dernières années. On peut rappeler, par exemple, en 1990, en moyenne, on arrivait à séquencer quelques milliers de nucléotides par jour. 10 ans plus tard, en 2000, on parlait de millions de nucléotides par jour. Autrement dit, on produisait chaque jour des textes d'un million et plus lettres à partir de génomes. En 2010, aujourd'hui, on en est aux milliards de nucléotides par jour. Donc, un facteur 1000 tous les 10 ans et donc un facteur d'un million en 20 ans. Voilà ce qui explique que dans les années 90-2000, on a mis autant de temps pour obtenir le premier génome humain, alors que maintenant, on parle de séquencer des milliers de génome humain à des fins scientifiques.
Et cette évolution des techniques de séquençage a eu un impact sur les coûts aussi, j'imagine.
À titre de comparaison, le coût du projet génome humain, donc qui a abouti à la première séquence complète d'un génome humain, ce coût est estimé à 2,7 milliards de dollars. Donc on passe de 2,7 milliards de dollars sur une période d'une dizaine d'années à 1500 euros. Voilà. Et ces abaissements de coûts sont probablement, encore une fois, pas terminés.
Maintenant, à quoi ça sert d'avoir accès à ces informations sur le génome ?
Connaître le génome humain, c'est potentiellement connaître l'ensemble des protéines qui est codé par ce génome et qui donc est utilisé à un moment ou à un autre par les cellules de l'organisme. Or, les protéines ont des rôles extrêmement divers dans un organisme. Ça peut être des protéines de structure qui servent à former des assemblages, parois et autres, mais ça peut être ce qu'on appelle des enzymes, c'est-à-dire des catalyseurs de réactions biochimiques. Donc connaître ces enzymes, c'est connaître les réactions biochimiques, c'est connaître le métabolisme d'un organisme. Donc ça, c'est un exemple. Et ça, c'est donné potentiellement par le génome.
Et pourquoi vous insistez sur le potentiellement ?
Parce qu'en fait, quand on a ce texte, encore une fois, on a le texte, mais il faut l'interpréter. Donc il faut trouver les gènes à l'intérieur, ça c'est une première utilisation de techniques informatiques, trouver les sections, les portions dans ce texte qui portent effectivement l'information qui code les protéines, c'est pas évident. Il faut savoir que dans le génome humain, quelques pourcents seulement de la séquence humaine code pour des protéines. Le reste a sans aucun doute ou peut-être un rôle, mais pour l'instant mal connu. Mais l'informatique sert aussi à essayer de caractériser ces protéines. Une fois qu'on a trouver le gène, on sait très vite quelle est la protéine correspondante parce qu'il y a une correspondance biunivoque entre la séquence d'un gène et la séquence de la protéine, en simplifiant. Mais ce qu'il faut savoir après, c'est savoir de quoi la protéine est composée, c'est-à-dire quelle est sa séquence d'acides aminés, c'est une chose, mais quelle est la fonction de cette protéine, à quoi elle sert ? Est-ce qu'elle a un rôle de structure ? Est-ce qu'elle a un rôle de transport de molécules ? Est-ce qu'elle a un rôle de catalyse de réaction biochimique ? Ça, c'est encore d'autres questions pour lesquelles la bioinformatique participe également à donner des réponses. Donc, d'une certaine manière, l'obtention du texte d'un génome, c'est le début de l'histoire. C'est un aboutissement technologique, mais c'est le début de l'histoire scientifique. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce texte ? Qu'est-ce qu'on va en tirer ? Quelles réponses on peut donner ? Et là, ça dépend évidemment des organismes. Connaître la séquence d'un virus peut aider à concevoir un vaccin contre ce virus. Connaître la séquence d'un génome bactérien peut aider éventuellement à trouver une cible pour des antibiotiques. Peut, je ne dis pas va. Doit ou va, hein, c'est autre chose.
Ces retombées médicales de l'analyse du génome nous amènent justement à parler du projet ICGC, un projet de l'International Cancer Genome Consortium, projet dans lequel vous êtes impliqué. Quels sont les objectifs de ce projet ?
Ce projet, un consortium international sur le cancer, vise en fait à séquencer le génome de cellules cancéreuses et non cancéreuses et de les comparer entre eux, afin, chez un patient atteint d'un certain type de cancer, pour justement essayer d'identifier les mutations qui pourraient expliquer ce cancer-là. Alors, on va faire ça chez un individu, un patient, à qui, bien entendu, on va demander l'autorisation,
malade.
Un malade, à qui on va demander l'autorisation de séquencer son génome, à savoir le génome de cellules cancéreuses et de cellules non cancéreuses, et de comparer ces génomes-là entre eux.
D'accord.
Et ça va être sur un patient. Donc en fait, si on veut avoir une image un peu plus précise des mutations impliquées dans un type de cancer, il va falloir faire cette comparaison-là sur plusieurs patients. Et c'est bien l'objectif du projet au niveau international que de séquencer le génome de cellules cancéreuses et non cancéreuses chez 500 patients, pour chaque patient deux séquençages, et pour 50 types de cancers différents, ce qui représente en tout 50 000 séquençages de génome, pour en tirer une carte, en quelque sorte, pour un type de cancer donné, des mutations susceptibles d'expliquer ce cancer-là. En France, par exemple, c'est l'INCa, l'Institut National du Cancer, qui est le partenaire du projet ICGC, et l'INCa se concentrera sur l'étude de deux cancers, un cancer du foie et le cancer du sein.
D'accord. Mais que permettra cette identification, finalement ?
La comparaison des génomes va permettre d'identifier, pour un patient donné, les mutations qu'on peut distinguer entre ces deux génomes-là. Et on va faire cette opération-là pour plusieurs patients, et donc pour plusieurs types de cancers. Donc ce qui va en résulter, c'est effectivement, pour un type de cancer donné, une carte des mutations qui a été observée. Alors évidemment, il va y avoir des considérations statistiques pour essayer de détecter...
S'il y a des facteurs...
Oui, absolument. Mais d'abord, s'il y a des invariances, c'est-à-dire est-ce que tel type de mutation se retrouve ou se retrouve pas, etc. Donc il y aura des considérations statistiques là-dessus. Et ça va être des mutations. Le terme mutation est très générique. Ça peut aussi bien être une mutation ponctuelle, c'est-à-dire le changement d'un nucléotide. Ça peut être l'insertion d'une région, la délétion, c'est-à-dire la disparition d'une région sur le chromosome. Ça peut être une partie d'un chromosome qui migre vers un autre, ou une partie d'un chromosome qui migre vers une autre région du même chromosome. Donc l'idée, c'est d'identifier ces mutations-là. Ça, c'est la première étape. Et après, biologistes et médecins vont se pencher sur ces cartes-là pour essayer de trouver, alors quoi ? D'abord, éventuellement, des tests diagnostiques, et puis ensuite, éventuellement, des thérapies. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est un autre projet.
François Reichenmann, merci d'avoir accepté cet entretien. Chers auditeurs, ce podcast est maintenant terminé. À la prochaine, et n'oubliez pas, l'informatique à portée de clic sur Interstice.